15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo. Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, je vous présente, vous êtes médecin généraliste et ici, du lundi au vendredi, c'est de la santé des auditeurs d'Europe 1 dont nous allons prendre soin. Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré aux jeûnes, aux cures détox aussi, qui sont de plus en plus à la mode et qui permettent de mettre nos intestins au repos. Avec notre invité, le naturopathe Thomas Hull, fondateur de la Pensée Sauvage, nous ferons le point sur les bienfaits de ces stages, mais on verra aussi que ce n'est pas recommandé pour tout le monde. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, c'est plutôt un coup de gueule sur Internet. Dans certains hôpitaux, une intox circule sur le fait que les patients sous chimio pourraient être toxiques pour leur entourage. Il nous expliquera que non seulement c'est faux, mais en plus, pas du tout fondé scientifiquement. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien, on va parler du lavage des mains. Combien de fois par jour? Comment se laver efficacement pour éviter tous les microbes qui circulent en ce moment? Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission. Catherine Blanc, notre sexologue, fera un point sur ses conjoints, hommes ou femmes, qui parfois font tout pour éviter les rapports sexuels. Mais tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, on écoute la première question, c'est celle de Marie, 32 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Voilà, je m'appelle Marie. Voilà, je suis sortie de la maternité il y a maintenant 5 jours avec ma petite fille et je m'inquiétais parce que elle ne reprend pas son poids de naissance en fait. Moi, en tant que jeune maman, bien entendu, ça m'inquiète beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.
Alors Jimmy, on peut comprendre l'inquiétude de cette jeune maman, Marie, un bébé qui est de retour de la maternité, qui continue encore de perdre du poids ou qui ne le reprend pas, bah ça peut être inquiétant. Mais on est d'accord, un nourrisson qui perd du poids au début, c'est tout à fait normal en fait.
Oui, exactement. Durant les premiers jours de vie, on accepte qu'un enfant perde jusqu'à 10% de son poids. C'est-à-dire qu'au moment où vous sortez de la maternité, si jamais vous avez eu un accouchement voix basse, c'est-à-dire au bout de 2-3 jours, ou si jamais il y a une césarienne, on sait très bien que l'enfant ne retrouvera pas son poids de naissance initialement, mais qu'il faut s'intéresser à la cinétique, c'est-à-dire comment il reprend du poids. S'il continue de perdre, de perdre, de perdre, c'est plutôt inquiétant. Mais s'il se stabilise et puis qu'il commence à remonter, tout doucement, on sait que dans les semaines qui suivent, il va reprendre son poids et puis largement le dépasser et puis tout va rentrer dans l'ordre.
Mais alors pourquoi faire quand même cette perte de poids obligatoire en quelque sorte au début là? Pourquoi?
Alors déjà, il part d'un milieu intra-utérin où finalement il faisait très peu d'efforts, il était nourri, à un milieu extra-utérin très stressant où il faut respirer, il faut réguler sa température. Parfois, il est soumis à certains stress, notamment les bébés prématurés qui ont un plus petit poids de naissance, qui brûlent plus de calories. Et puis, il y a aussi un facteur assez évident, c'est l'allaitement. Un bébé qui est allaité, bah forcément, va mettre plus de temps à reprendre son poids de naissance car l'allaitement, en général, se déclenche au bout de 3 jours. La montée de lait, c'est au 3e jour. Ce qui veut donc dire qu'il va perdre un peu plus de poids, mais qu'il va le rattraper. Bref, pas de panique, vous avez souvent des sages-femmes, des auxiliaires, des pédiatres qui pourront vous rassurer puis vous dire attention, là c'est le moment de prendre un peu plus soin de votre enfant parce que c'est pas à vous de gérer ça.
Alors vous avez dit qu'il y en a certains qui peuvent perdre jusqu'à 10% de leur poids dans les premières semaines comme ça, mais au bout de combien de temps on s'inquiète? Au bout de 10 jours, 15 jours, je sais pas, 3 semaines, si le bébé il a toujours pas retrouvé ce poids de naissance, il faut s'inquiéter quand?
Alors il n'y a pas vraiment de règle, il n'y a pas de durée, on dit pas au bout de 5-10 jours, c'est la cinétique qui est importante. Retenez que globalement un enfant prendra ensuite 200 grammes par semaine jusqu'à ses 3 mois. Ça équivaut à 20 à 30 grammes par jour. Une étude américaine ou portant sur 140 000 bébés a montré que 50% des enfants n'avaient pas repris leur poids de naissance à 10 jours.
Ah oui.
Bref, n'hésitez pas à le peser à la PMI, chez le médecin traitant ou le pédiatre. Vous verrez avec quelques conseils, tout rentre dans l'ordre.
Merci beaucoup Jimmy. Alors on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Clémence. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. J'ai lu quelque part que dormir avec les cheveux mouillés, ce n'était pas forcément bon pour nous. Moi, c'est vrai que je préfère me laver les cheveux le soir pour pas être embêtée le matin en partant au boulot. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Merci beaucoup, bonne journée.
Bon, alors Jimmy, un petit conseil cheveux cette fois. Je sais que vous adorez ces conseils-là. Vous n'êtes pas très spécialiste du truc, hein. Vous avez les cheveux très courts, vous. Mais finalement, alors d'un point de vue de santé, est-ce que sur le plan médical, il y a un risque à se coucher avec des cheveux mouillés?
Bon, écoutez, pas vraiment. La seule chose, c'est qu'on sait très bien que les champignons, les milieux chauds et humides, donc ça n'a rien de sexuel dans tout ça.
Les mycoses.
Les mycoses, exactement. Ouais. Donc en fait, se coucher avec des cheveux mouillés pourrait, sur finalement le court ou le moyen terme, entraîner l'apparition de pellicules. Donc c'est tout ce que je vois. C'est pas terrible, mais bon, c'est pas non plus dramatique.
Alors bon, un petit conseil esthétique, là, c'est moi qui m'en charge, hein, comme
je
d'habitude.
Vous en prie, Mélanie.
Si on dort avec les cheveux mouillés, c'est vrai que il y a certains coiffeurs qui disent que c'est mauvais pour la fibre capillaire parce que ça les fragilise finalement. En étant mouillés, en fait, les cheveux, les écailles des cheveux s'ouvrent et c'est ce qui les fragilise. Surtout si vous avez des cheveux colorés ou des cheveux déjà fragilisés par des permanentes ou autres, ben, aller dormir avec les cheveux mouillés ou à la longue, hein, ben, ça peut encore les rendre moins résistants. Et puis, Jimmy, il y a quand même pas un risque de s'enrhumer, ça non,
non,
ça
on n'attrape pas le rhume par le froid, sinon moi je tomberai jamais malade, comme j'ai pas de cheveux. On attrape le rhume finalement par un virus. Donc le fait que des gens soient malades, donc vous couchez les cheveux mouillés, ne vous rendra pas malade, mais peut-être finalement les cheveux.
Un peu cassant, quoi, c'est ça. Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Clémence, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va plutôt pousser un coup de gueule. Non, les patients en chimio ne sont pas toxiques. Et puis, on accueillera aussi notre invité du jour. C'est Thomas Hull. Aujourd'hui, avec lui, on fera le point sur l'intérêt des stages de jeûne et de détox. Pourquoi faut-il mettre nos intestins au repos? A tout de suite sur Europe 1. Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre nouvelle émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors dans quelques minutes, nous accueillerons notre invité Thomas Hull pour parler des bénéfices des stages de jeûne sur la santé. Mais d'abord, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, c'est plutôt un coup de gueule que vous avez décidé de pousser à partir d'une info qui a été relayée par l'association Rose qui défend les patients atteints de cancer. Les patients sous chimiothérapie, non, ne sont pas dépestiférés. De quoi cette histoire part-elle en fait?
Alors ça part d'un livret assez absurde, un livret d'informations distribué dans deux hôpitaux, donc pas dans des petites cliniques, donc dans des endroits où on traite des cancers. Et on leur explique que les patients en chimiothérapie seraient toxiques pour leur entourage. Et donc qu'ils seraient recommandés, attention, de ne pas dormir avec leur conjoint, ni approcher les enfants ou les femmes enceintes. Comme si finalement on avait la tuberculose ou une autre maladie très contagieuse. Et puis je pense que la maladie est déjà suffisamment dure à vivre pour être en plus exclue de ses proches. Donc c'est vraiment totalement absurde et surtout infondé.
Alors jusqu'où vont ces pseudo-recommandations dans ces livrets qui ont été distribués?
Alors ils appellent ça le passeport pour une chimiothérapie responsable. Comme si finalement nous étions coupables finalement de ce qui pourrait arriver, qu'il faudrait avoir une responsabilité. Eh bien on leur explique qu'il faut ne pas être en contact avec des jeunes enfants, des femmes enceintes ou qui allaitent. Et puis on ne dort pas avec son conjoint durant les 48 heures qui suivent une chimiothérapie. Il faudrait aussi laver le lâche-sale à part, mais ne pas être mélangé au reste de la famille. Et on demande aussi d'éviter le contact avec les femmes qui allaitent. Bref, n'importe quoi.
Et alors, il n'y a pas de fondement scientifique, hein, on est d'accord?
Zéro, absolument zéro fondement scientifique. Il se base sur deux études. La première étude comporte 3 patients.
Ah oui, d'accord.
C'est comme si moi, je décidais là sur ce plateau, je fais une étude sur 3 patients. Voilà,
sur nous trois,
faisons une étude et puis balançons des bêtises. Et puis une deuxième étude qui porte sur 13 patients avec 11 personnes dans leur entourage. Et cette étude conclut que finalement, les gens qui se côtoient des personnes qui ont une chimiothérapie ne sont pas contaminés, que les seuls ne sont pas contaminés. Bref, ils ne se basent sur rien. Et lorsqu'on interroge un des responsables, il parle de principe de précaution. Bref, encore une fois, j'insiste, c'est vraiment une fake news.
Mais la chimiothérapie, elle n'est pas excrétée quand même pendant quelques jours par le corps dans justement les urines ou autres?
Si, exactement. Elle est excrétée, on le sait très bien, les patients le savent, les médecins le savent, dans les urines, dans les selles, dans le vomi, dans la transpiration. Mais après, on propose des règles de bon sens. Bien se laver les mains après être allé aux toilettes, nettoyer lorsqu'on le vomit.
Comme
qui
tout
ne
le temps,
nettoie
en fait,
pas lorsqu'on
oui,
vomit
bien sûr.
Et puis pour les messieurs qui font pipi, préférez faire pipi assis que debout, c'est du bon sens. Mais encore une fois, on n'est pas contagieux, on n'est pas un pestiféré lorsqu'on a une chimiothérapie.
Et bien au contraire, on a besoin du soutien et des câlins de ses proches. Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour toutes ces précisions. Et tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. Il s'agit de Thomas Hull, il est naturopathe et il est le fondateur de la Pensée Sauvage. Avec lui aujourd'hui, nous allons faire un point sur l'intérêt du jeûne et des cures détox. Bonjour Thomas Hull.
Bonjour Mélanie.
Alors, avant de rentrer dans le détail de l'intérêt des stages de jeûne pour notre santé, d'abord un mot peut-être sur la pensée sauvage. C'est un concept que vous avez créé, c'est quoi?
Alors, la pensée sauvage, c'est l'occasion de pouvoir prendre soin de soi, de pouvoir se retrouver en pleine nature et vivre une expérience un petit peu hors du commun, partagée avec d'autres, où on mange moins, voire plus, et où on marche.
Alors, justement, parmi vos activités, vous proposez des stages de jeûne, de détox et de randonnée. C'est quoi brièvement ces stages? Ça s'adresse à qui?
Alors, les stages de détox, c'est principalement adressé aux personnes qui sont en bonne santé et qui ont envie finalement d'avoir une meilleure hygiène de vie et faire en sorte d'avoir plus de vitalité. Ça s'adresse également aux personnes qui commencent à avoir des légers problèmes de santé et qui se disent « Tiens, peut-être que mon hygiène de vie est en cause finalement dans ces problématiques-là ». Et la plupart des personnes qui viennent vraiment avec cette envie, cette recherche d'améliorer leur quotidien.
Jimmy ?
Et vous proposez apparemment ces stages depuis 13 ans et vous avez l'impression que l'engouement augmente, que la demande explose, que c'est un peu un phénomène à la mode ou que ça va au-delà de ça ?
Ça va bien au-delà. En fait, c'est vrai que la demande augmente. En 13 ans, nous, on a commencé il y a 13 ans avec 6 semaines. Aujourd'hui, on est quasiment à 80 semaines de séjour proposés. Donc, il y a une grande demande qui est grandissante. Et on voit même d'autres centres qui existent et qui fleurissent de plus en plus. Et en fait, la demande aujourd'hui, je pense qu'elle est vraiment liée au besoin et à vraiment ce besoin que les personnes ressentent de se mettre au vert. Les personnes qui viennent aujourd'hui arrivent vraiment en cure et lors des débuts de séjour en disant « j'ai besoin de poser mes valises ».
De déconnecter.
J'ai besoin de déconnecter, j'ai besoin de respirer.
Et alors, justement, dans vos cures, je crois que ça se passe notamment dans le Vercors, là où vous avez un centre, effectivement. Est-ce que le cadre, il a son intérêt pour mettre ses intestins au repos ?
Alors, le cadre joue énormément. Il est vrai que si on faisait un jeûne en ville, dans son quotidien, et c'est tout à fait faisable, on n'en a pas du tout les mêmes bienfaits in fine. Et c'est vrai que d'avoir un cadre qui nous permet d'avoir une rupture, et pour la plupart des personnes avec le monde urbain, permet vraiment une reconnexion, permet de souffler, et permet de se contempler également et de se nourrir autrement.
Et justement, vous proposez, vous, donc des stages de jeûne, mais aussi des détox, c'est-à-dire des cures où on va manger un petit peu, par contre, hein, c'est ça ?
Tout à fait. En fait, on s'est rendu compte que tout le monde ne peut pas jeûner et qu'il est très important d'individualiser la cure en fonction des besoins. Ainsi, une personne qui n'est pas prête à jeûner, on peut la passer en ce qu'on appelle une monodiète ou même encore une détox végétale où la personne va manger des fruits et des légumes bien préparés, et ce qui permet également de repartir chez soi avec tout un tas d'idées et de se dire tiens, finalement ce n'est pas si compliqué de pouvoir manger des légumes, de pouvoir manger des fruits d'une certaine façon et d'une façon du coup saine pour sa santé.
Alors on n'en a pas terminé avec vous Thomas Hull, dans quelques minutes on va rentrer un peu plus dans le détail, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, notre invité va nous expliquer comment se déroulent ces cures de jeûne. On va voir que ça se prépare, ça ne s'improvise pas d'être jeûneur. Ça commence quelques jours avant par une descente alimentaire. Et puis ensuite, durant ces stages, que se passe-t-il dans notre corps ? On vous dira tout. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre nouvelle émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, Thomas Hull. Il est naturopathe et fondateur de La Pensée Sauvage. Alors avec vous, aujourd'hui, on parle des bénéfices des stages de jeûne et de détox. Mais d'abord, avant de rentrer dans le détail, est-ce que vraiment tous aujourd'hui, en France globalement, et même dans tous les pays industrialisés, vraiment, on mange trop ?
Bien évidemment, Mélanie, on mange beaucoup plus qu'il ne faut. Un, par habitude, et aussi surtout par compensation. Souvent par compensation à nos stress, à nos façons finalement de nous relationner ou à nos émotions. On mange bien plus qu'il n'en faut et on est même plus connecté à nos besoins. Et souvent, même le sentiment de satiété, on ne sait plus ce que ça veut dire. Mmh. On a un sentiment de « j'ai trop mangé ». Et on a presque de la culpabilité derrière.
Et justement, ces stages, ça permet de remettre un petit peu les pendules à l'heure, justement, oui. Hein, de ressentir de nouveau
exactement.
Cette satiété.
Ouais, l'intérêt après, justement, un séjour de jeûne, c'est de pouvoir ressentir ce sentiment de satiété, de finalement se rééduquer à ce sentiment-là et de se rendre compte, finalement, au cours d'un repas, on peut à la moitié ne plus avoir faim.
Alors, on va rentrer dans le concret maintenant, dans les stages, là justement, notamment ce que vous proposez. D'abord, au départ, on s'inscrit, et je crois que vous faites quand même remplir un questionnaire de vitalité, vous allez nous expliquer ce que c'est, parce que tout le monde ne peut pas jeûner, hein, c'est ça ?
Exactement. Au préalable, quand une personne vient pour faire un séjour, on se renseigne sur quel est son parcours, quels sont ses besoins, et quelle est également sa physiologie.
Et donc ?
Et donc, oui, en effet, ce questionnaire, ce bilan de vitalité est un indispensable pour pouvoir orienter la personne qui souhaite, par exemple, faire un jeûne. Il nous arrive, en amont, de pouvoir dire à une personne, écoutez, vous ne pourrez pas jeûner.
Parce que vous êtes trop maigre, par exemple ?
Oui, parce que justement, il y a une problématique de poids ou quelqu'un qui fumerait, par exemple, 3 paquets de cigarettes par jour, on lui dira, écoutez, avant de vouloir venir jeûner, il va falloir petit à petit travailler ses addictions avant de se rajouter un autre stress.
Jimmy ?
Et cette préparation, vous appelez ça, enfin, ça s'appelle la descente alimentaire.
Exactement.
Vous pouvez expliquer ce que c'est ? En gros, c'est on se prépare finalement à ne plus rien manger ?
Alors oui, et cette préparation est essentielle. Car si on changeait son alimentation du jour au lendemain, le corps vivrait un grand stress et se dirait mais qu'est-ce qui se passe et comment je dois réagir ? Et là, on aurait beaucoup de mots finalement d'adaptation. Donc cette préparation consiste simplement à enlever petit à petit, par exemple, les excitants, donc notamment le café, les sucres,
3-4 jours avant, quoi,
oui,
c'est ça ?
5 jours, on commence 5 jours avant. Et cette préparation progressive où on enlève notamment ces excitants qui, quand on les enlève subitement, génèrent des maux de tête, génèrent tout un tas de phénomènes finalement de désadaptation au niveau du corps. On enlève petit à petit les protéines alimentaires, les céréales, pour ne manger plus que des légumes et des fruits.
Quand on arrive chez vous, à votre stage, on ne mange plus que des légumes et des fruits,
exactement,
c'est ça ?
Pendant 2 jours, on dit à satiété, donc on n'a pas de problématique de faim, mais on peut manger à satiété des légumes et des fruits. Et c'est vrai que c'est assez facile à faire finalement, qu'on soit qu'on travaille, qu'on soit en repas, qu'on soit à la famille. C'est assez facile à réaliser. Et ce passage-là est indispensable pour finalement rentrer dans une cure avec cette sensation de ne pas avoir faim.
Et donc j'arrive, j'ai commencé ma descente alimentaire depuis 5 jours, je ne mange plus que des fruits et légumes, j'arrive, c'est le premier jour de stage, vous me recevez pour faire un bilan d'abord.
Alors, oui, vous avez un naturopathe qui vous reçoit, pendant 3 quarts d'heure, on fait le point sur vos attentes, vos objectifs, et on vérifie une fois de plus si la cure que vous souhaitez vivre est bien adaptée à vos besoins. Car jeûner, c'est également un stress physiologique pour le corps, il ne faudrait pas que ce soit un challenge de trop qui vous épuise, mais au contraire qui vous apporte de la vitalité.
Jimmy.
Et puis je suppose que vous faites quand même attention aux antécédents du patient. Vous devez peut-être finalement recaler certains qui ne seraient pas aptes. Je pense à par exemple des patients diabétiques sous insuline mal équilibrée, des pathologies psychiatriques ou autres. Ça vous arrive de dire non, on ne vous accepte pas. Et c'est peut-être d'ailleurs un gage de qualité. Une structure qui sait dire non, c'est peut-être une structure en qui on peut avoir confiance.
Essentiel. Ça nous est déjà arrivé par exemple au sein de ces bilans de vitalité d'avoir des personnes avec des problématiques de poids qui n'avaient pas rempli le bon poids justement. Et quand on les a vus arriver, on leur disait mais écoutez, madame ou monsieur, vous ne pourrez pas jeûner chez nous. Vu l'IMC que vous avez. Et ça nous est arrivé de ramener des personnes à la gare. On a eu également des fois des personnes en décompensation psychiatrique et qui n'étaient pas traitées, en leur disant, écoutez, nous ne sommes pas le lieu pour pouvoir vous recevoir, nous ne sommes pas habilités et même pas compétents pour pouvoir accompagner à ce moment-là.
Dans ces cures de jeûne, vous proposez donc évidemment du jeûne, donc on ne mange pas. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme activité pour toute cette semaine? On fait quoi?
Alors, on commence le matin par du yoga. Un réveil musculaire qui permet justement de remettre tout le corps en mouvement et également d'appréhender son corps, quelque chose qu'on ne fait pas toujours au quotidien. Ensuite, on part marcher et la marche est un moment très important quand on jeûne ou quand on fait une détox et on marche entre 6, 12 voire 15 km par jour.
Et ensuite, on peut avoir aussi d'autres activités. Vous proposez aussi de la méditation.
Exactement, ouais. Méditation, des ateliers de cuisine même pour apprendre et comprendre qu'est-ce qu'on pourrait manger après en rentrant chez soi. Des conférences également sur les conseils en naturopathie ou également comprendre que nous sommes ce que nous mangeons.
Alors, on va continuer à parler de ces cures de jeûne et des bénéfices qu'on peut en entendre sur l'organisme. Vous restez avec nous surtout, Thomas Hull.
Europe 1.
Dans un instant, on va parler de comment le corps s'adapte au manque de nourriture. Dans ces stages, les gens marchent parfois 8 km par jour sans manger pendant une semaine. Par contre, l'hydratation reste la clé de la réussite. Il faut même boire jusqu'à 3 litres de liquide par jour pour que tout se déroule bien. Restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité Thomas Hull, naturopathe et fondateur de la Pensée Sauvage. Alors avec vous aujourd'hui Thomas, on fait le point sur ces cures de jeûne et de détox que vous proposez d'ailleurs dans le Vercors. On a vu que ça se prépare une cure de jeûne, il faut d'abord faire quelques jours de descente alimentaire. Et puis bon, disons on a commencé, donc quand on jeûne, ça y est, je commence une semaine de stage avec vous. Qu'est-ce qui se passe dans mon organisme les premiers jours?
Alors assez étonnamment, le corps a prévu au cas où que nous n'ayons pas mangé. Ainsi le corps a stocké du sucre dans le foie et dans les muscles sous forme de glycogène. Ainsi, les premières 24 heures à 36 heures, on passe dans ce qu'on appelle la glycogénèse, et le corps transforme tout simplement ce sucre stocké, et le grand étonnement, c'est de se dire « tiens, j'ai même pas faim et tout va bien ». Ça peut se corser au bout de 24 heures à 36 heures, et on passe dans une fameuse crise d'adaptation, où le corps doit aller chercher un peu plus loin. Et là, c'est au grand étonnement du corps qu'il se dit « mince, il continue, comment je vais faire ?» Et là, on passe dans la transformation des graisses en sucre, ce qu'on appelle la néoglycogénèse. Une fois qu'on est rentré dans cette vitesse de croisière, on rentre dans ce qu'on appelle une capacité à pouvoir jeûner un certain temps. Il est dit qu'un être humain d'1m70-70 kg aurait 40 jours de réserve de graisse devant lui sans se mettre en danger. Un être humain 1m70-90 kg, 100 jours de réserve de graisse devant lui.
Jimmy ?
Effectivement,
c'est fou, hein,
oui, c'est fou,
ouais.
Hein, comme quoi. Mais finalement, durant la première phase, les 48 premières heures, on peut ressentir des effets secondaires, des maux de tête et avoir du mal à passer le cap. Qu'est-ce qu'on peut ressentir concrètement comme symptômes ?
En effet, on le sent après ces fameuses 24 heures, 36 heures de glycogénèse, c'est au passage de la néoglycogénèse. Et on a un sentiment, je dis souvent cette sensation que disent très bien nos adolescents, de se sentir au bout de sa vie. C'est-à-dire que monter un escalier...
J'ai trop faim, je suis au bout de ma vie.
On voit bien ça, tout de suite, ça parle.
Ça, j'imagine.
Et on peut être vraiment un sentiment de « ouh là là, monter un escalier, mais comment je vais faire ?» Et c'est également des sentiments des fois de nausée ou de tachycardie ou de maux de tête, on n'est pas très bien. Et c'est vraiment le jour où il faut au contraire aller marcher, s'oxygéner. Et c'est là où l'effet de groupe, quand on participe à une cure de jeûne, est très important. Car seul, qu'est-ce qu'on ferait? On resterait sous sa couette et on laisserait passer le temps. Le seul problème, c'est que 5-6 heures après, on est toujours dans le même état. À l'inverse, quand on sait qu'on a d'autres collègues qui vivent la même chose et qui sont en train de vous attendre pour aller marcher, on se sent un petit peu, entre guillemets, obligé d'y aller.
Et on souffre tous ensemble.
Exactement, mais ça crée des liens. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'au bout de 10, 15, 20 minutes de marche, on a complètement oublié cet état-là. Alors, simplement parce qu'on a remis en circulation tous les fluides dans le corps, qu'on respire, et du coup, on passe largement cette crise finalement d'adaptation avec grande facilité.
Alors, quand on jeûne, on ne mange pas, a priori, oui. c'est le principe, mais par contre, boire, c'est primordial, et boire beaucoup même.
Alors, boire est essentiel. Un être humain élimine 3 litres de liquide par jour. Dans notre quotidien, on a à peu près 1,5 litre qui est apporté par les boissons et 1,5 litre qui est apporté par l'alimentation que l'on consomme. Quand on s'abstient de manger, évidemment, on doit avoir au moins 3 litres de liquide apporté par jour.
Donc de l'eau ?
De l'eau, principalement, des tisanes, des jus de fruits dilués pour certains et des bouillons de légumes sont très intéressants.
Jimmy ?
Et tout à l'heure, vous parliez donc de l'effet de groupe. Et je repense par exemple à ceux qui peuvent pratiquer le ramadan ou le carême. Finalement, le fait d'être ensemble et d'accomplir, avoir le même objectif, ça aide vraiment. Donc c'est vraiment plus simple cet effet d'être en lien social ?
Bien sûr, on le partage. Vivre seul, finalement, une absence de nourriture, ça peut être très difficile à vivre. À l'inverse, de le partager crée beaucoup également d'intimité et on partage une zone inconnue. Pour la plupart des personnes qui n'ont jamais jeûné, se disent « mais tiens, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis on partage des zones d'intimité qui sont parfois assez incroyables.
Et quel bénéfice on peut en attendre de cette semaine de jeûne ? Par exemple, je fais un stage, comment je vais me sentir après ? Je suis plutôt en bonne santé au départ. C'est quoi les bénéfices attendus ?
Le grand bénéfice, c'est de la sérénité, de la clarté d'esprit et surtout de la vitalité.
Donc vous ne guérissez pas le cancer. Il y en a certains qui promettent ça, ce sont des charlatans évidemment. Donc là, qu'est-ce que vous promettez ?
Alors là, c'est vraiment le moyen de prendre soin de soi. En fait, quand on fait une cure de jeûne, c'est un moyen habile de pouvoir prendre plein de ressources pour pouvoir vraiment changer ce qu'on voudrait améliorer dans notre vie. C'est une façon de faire une forme de retraite, de se poser les questions essentielles. Où est-ce qu'on en est dans sa cohérence, dans son chemin de vie ? Et le jeûne permet de repartir boosté physiquement, psychologiquement et émotionnellement.
Et il y a aussi des bénéfices quand même sur la santé, certains
sûr.
En tout cas qui ont été montrés, notamment on a moins de douleurs par exemple, c'est ça ?
Oui, alors on a un aspect anti-inflammatoire qui est très intéressant, notamment par la mise au repos du système digestif, qui n'est pas sursollicité, donc le corps a le temps finalement de calmer ses inflammations, également d'apaiser les problématiques articulaires, de réguler les problématiques de tension, donc on a de nombreux bienfaits bien sûr qui se cumulent.
Jimmy ?
Et ce jeûne, faudrait le faire tous les combien de temps ?
Alors idéalement au moins une fois par an. Et si on le peut, 2 fois par an.
Et combien de jours on doit tenir ?
Au moins 5 jours. Au moins 5 à 6 jours pour en avoir les bienfaits. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, il existe plein de formes de jeûne. Du jeûne intermittent au jeûne de prévention, qui est du jeûne moyen. On peut avoir vraiment un jeûne pour tout le monde, entre celui qui jeûne 16 heures de temps en temps, voire tous les jours, et entre celui qui se dit, bah, tiens, tous les 6 mois, je mets vraiment mon corps au repos, je prends une semaine de pause et pendant 5 jours, je ne mange pas.
Et alors justement, quand on fait ces stages, donc on termine cette semaine, on est dans quel état à la fin et on se remet à manger tout de suite ?
Alors non, justement, on prend vraiment le temps de réintroduire. À l'exactitude finalement de la préparation alimentaire, on doit faire une reprise alimentaire progressive. Et au plus la reprise alimentaire est progressive, au plus les bienfaits durent dans le temps. Et c'est même une mise en danger potentielle de reprendre trop rapidement l'alimentation.
Ils sont dans quel état à la fin, les stagiaires ? Les curistes, je ne sais pas comment vous les appelez.
Ils ont le sourire, les yeux qui pétillent.
Ils n'ont pas faim.
Ils n'ont pas faim. Alors, on donne souvent ce jeu de mots qui n'est pas une mauvaise blague, mais on finit souvent un jeûne en restant sur sa faim. Et il vaut mieux finir un jeûne en ayant encore la sensation qu'on pourrait continuer, qu'à l'inverse, finir un jeûne en ayant les crocs et se disant oh, « pourvu vite que je mange ».
Combien ça coûte quand même tout ça ? Parce qu'on voit un peu partout maintenant et puis il y a des tarifs plus ou moins élevés. Chez vous, par exemple, une semaine, ça coûte combien ?
Alors,
on
commence à 1400 euros et après on grimpe en fonction de la catégorie de chambre ou de cure que l'on
prend. Il y a aussi la partie hôtellerie, évidemment, qui reste à prendre en compte.
Et il est vrai, pardon Mélanie, que l'accompagnement est un point important. Et pour donner un conseil finalement à nos auditeurs, soyez attentifs à la qualité d'accompagnement.
Dire, comment on sait qu'on n'est pas tombé sur des charlatans ?
Le nombre de personnes qui vous accompagnent, leur professionnalisme, des naturopathes, également des accompagnateurs diplômés en randonnée, un ensemble de praticiens qui vont être là pour offrir toutes leurs qualités finalement au séjour.
Merci beaucoup. Et puis,
avec plaisir.
De fausses promesses également, c'est ça ?
Exactement.
Vous ne promettez pas de guérir des maladies ?
Le jeûne est un moyen d'eux. Et ensuite, c'est le changement de vie, finalement, le changement d'hygiène de vie qui peut être précurseur de nombreuses choses.
Merci beaucoup Thomas Hull d'être venu sur notre plateau.
C'est moi.
Grâce à vous, on en sait plus sur ces cures de jeûne, des détox aussi. On a compris que ça ne s'improvise pas, qu'il vaut mieux être entouré de gens qui s'y connaissent. D'ailleurs, c'est un bon moyen d'éviter justement les charlatans. Pour des bénéfices donc testés et approuvés par la majorité de vos participants, la plupart parlent d'une vitalité retrouvée et d'un mode de vie ensuite changé durablement. Merci encore.
Merci beaucoup.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique, les bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on s'est intéressé au lavage des mains cette saison. Et c'est très important car c'est le moyen le plus efficace pour prévenir la transmission de tous les virus qui commencent à nous entourer. A tout de suite sur Europe 1. Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Aujourd'hui on parle du lavage des mains. Quand faut-il le faire? Quelle est la bonne méthode? Justement, Benjamin Lévesque a été vous donner la parole, voir si vous maîtrisez ce geste de prévention. On écoute ce micro-trottoir.
Je dirais une bonne vingtaine de fois par jour.
C'est un réflexe.
Chaque fois que j'ai été dans des lieux publics, si je suis allé au supermarché, quand je vais revenir chez moi, je vais me laver les mains.
Après être allé aux toilettes, très important à chaque fois qu'on rentre de soirée, parce qu'on n'y pense pas souvent quand on est bourré, mais c'est important.
Mais pour moi, c'est naturel de se laver les mains avant d'attaquer un repas.
C'est un savon de Marseille liquide.
Moi, j'utilise plutôt du savon solide. Bah parce que ma mère achète ça, mais puis bah en plus c'est plus écolo.
Du pousse-mousse.
J'utilise quand je vais prendre l'avion ou le train des gels hydroalcooliques, mais voilà, sinon c'est plutôt du savon classique.
Ouais. Du coup c'est vrai que le gel hydroalcoolique, bah, ça abîme assez les mains, ça les assèche. Il y a pas mal de trucs qu'on n'a pas trop envie d'avoir sur les mains, de ce que j'ai compris et d'après les tests sur les barres de métro ou les choses un peu comme ça.
Il y a un risque, notamment de gastro-entérite, notamment...
Les gastro, les rhumes, les machins.
Les gastro, les rhumes, les machins, effectivement, en ce moment, c'est parti. Donc Jimmy, on est en automne et déjà, il y a beaucoup de gens malades. Donc oui. Ça y est, les virus sont de retour. Donc contre eux, le moyen efficace, on l'a dit, c'est le lavage des mains.
Et oui, on n'a pas trouvé grand-chose de plus efficace, même rien de plus efficace. Là, c'est vrai qu'on est en période de gastro-entérite. Je vois beaucoup de gens avec des rhumes, des bronchites, des otites. Et ça passe, cette prévention passe par le lavage des mains, tout simplement. Alors, ça paraît tout bête, mais finalement...
C'est
trivial. Mais se laver les mains permet d'éviter de transmettre des bactéries, des virus, soit d'homme à homme, lorsqu'on se touche les mains, ou finalement, lorsqu'on touche un objet, on va le souiller, une poignée de porte, un jouet, une poignée dans le métro, par exemple. Et donc, à partir de ce moment-là, on tombe malade. Donc, l'hygiène des mains, c'est tout bête, mais c'est vraiment primordial.
Alors justement, on doit se laver quand les mains, de préférence? Vous avez parlé du métro, j'imagine, en sortant du métro, par exemple?
Oui, alors l'idéal, c'est avec de l'eau et du savon. Vous savez, on aime bien les petites solutions hydroalcooliques, mais celles-ci ne marchent pas sur des mains souillées. Donc, si vous avez les mains sales, inutile de l'utiliser, ça ne marchera pas. L'idéal, c'est effectivement une fois qu'on sort de la maison, quand on rentre, avant d'aller aux toilettes, après être aux toilettes, avant de manger, après s'être occupé du bébé, après être en contact avec des personnes fragiles.
On n'a qu'à passer la main, garder les mains sous l'eau toute la journée, et puis c'est bon.
Ce serait pas mal. Les mains dans un aquarium, ça pourrait...
C'est
non, ça ne marcherait pas. Mais bref, il faut le faire autant de fois que possible. Et surtout, lorsque vous partez en vacances, c'est le meilleur moyen de prévention, notamment de la tourista. Donc si vous voulez éviter gastro, grippe qui va arriver dans quelques temps, lavez-vous les mains, mieux vaut plus que pas assez.
Alors, comment on se lave les mains? Est-ce qu'il y a une technique? Moi, je sais quand j'envoie mon fils laver les mains, en général, je l'entends l'eau qui coule 3 secondes. Ça y est, maman, c'est fait!
Ah oui, exactement.
C'est un peu rapide, ça.
C'est un peu trop rapide. Ouais. Il faut compter entre 20 et 30 secondes pour un lavage de mains efficace. Et donc, ça paraît assez long. Donc, il faut compter ou mettre un chronomètre, notamment chez les enfants, parce qu'il y a un vrai apprentissage du lavage de mains.
Comme le lavage des dents.
Exactement.
Il faut que ça dure un peu longtemps.
Il faut que ça dure longtemps. Il ne faut pas hésiter de bien frotter entre les doigts, sur les ongles, et puis à l'intérieur des ongles. Donc, ne pas oublier d'utiliser une petite brosse. On oublie souvent de couper
les ongles. Dégoûtant parfois.
Et donc, ça met du temps, mais il faut le faire parce que c'est comme ça qu'on prévient bon nombre d'infections. Donc, incitez vos enfants à le faire, faites-le avec eux, parce que c'est un vrai apprentissage. Ça s'apprend, se laver les mains. C'est pas juste passer un
comme
petit coup d'eau.
Comme se brosser les dents.
Exactement. C'est l'analogie est très intéressante, parce que souvent on dit lave-toi les mains, bon, un peu d'eau et ça passe. C'est vrai que c'est mieux que rien, mais vraiment insister sur ça.
Le dessous, entre les doigts,
mais
il faut pas
hésiter. Il faut pas hésiter
à montrer. Et on n'oublie pas non plus de sécher. Je crois que le séchage des mains après s'être lavé, c'est très important.
Oui, car les bactéries et virus aiment bien les milieux humides et chauds. Donc si vous avez les mains humides, vous pourrez transmettre beaucoup plus facilement les infections. En revanche, l'idéal est d'utiliser des serviettes à usage unique.
Du papier
tout simplement, ou une serviette propre. Vous savez, les petits sèche-mains qu'on nous promet, souvent sont pleines de bactéries, de virus, et nous rebalancent de l'air chaud qui est sale. Et à ce moment-là, on peut retomber malade. Donc évitez plutôt ces systèmes. Dans un monde parfait, c'est pas écolo, mais c'est les serviettes à usage unique.
D'accord. Et qu'est-ce qu'on pense rapidement du gel hydroalcoolique? Là, vous avez dit oui de temps en temps, mais pas tout le temps.
Ouais, ça peut dépanner, pas plus de 3 fois de suite. Au-delà, il faut se laver les mains. On évite ça chez les enfants, parce que parfois,
il y a eu des accidents d'ailleurs.
Ils vont l'inhaler, ils vont faire n'importe quoi. Et puis, il faut qu'ils apprennent à se laver les mains. Donc ça peut vous dépanner quand vous êtes un peu dans le métro et vous êtes un peu coincé. Mais le lavage des mains, c'est plutôt la priorité. Laissez les solutions pour les professionnels de santé.
Très bien, merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour tous ces conseils.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de l'émission. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, on va faire le point sur ses conjoints, hommes ou femmes, qui parfois font tout pour éviter les rapports sexuels. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous les deux.
Alors avec vous tous les jours, à la fin de chaque émission, on parle de sexualité avec des sujets qui nous concernent tous, même si on n'ose pas toujours les aborder. Et aujourd'hui, on a une question, vous allez y répondre. La question que nous a posée Sébastien, 27 ans. Avec ma copine, nous sommes ensemble depuis 3 mois et elle se refuse encore à moi. Soudain, c'est ok, mais pas de chance le jour où je ne peux pas, car encombré par un petit symptôme pas très agréable. C'est à mon sens l'expression de notre incompatibilité. Qu'en pensez-vous ? Alors Catherine, qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce qu'ils sont incompatibles ?
Alors, ils sont incompatibles, en tout cas pas dans leurs difficultés manifestement, puisque il y en a un qui ne veut pas, ne peut pas, pour, ou n'est pas encore prête pour elle, et puis lui, tout d'un coup, qui ne l'est pas quand elle l'est tout soudain. Alors on peut se poser la question, est-ce que chacun s'organise pour se louper ? Et chacun témoigne très justement de sa difficulté aussi, malgré son désir affirmé, de sa difficulté à oser la relation et oser la rencontre et la pénétration, où on peut aussi se dire qu'elle n'était jamais aussi prête que quand elle savait qu'il ne l'était pas. Ce qui veut dire que c'est plutôt elle qui est en difficulté dans l'idée de pouvoir faire l'amour et qu'elle a besoin, quand elle n'est plus elle le symptôme qui ne peut pas, besoin de l'autre et du symptôme de l'autre pour pouvoir s'exprimer et lui transmettre la patate chaude en quelque sorte à l'autre.
Il dit Sébastien que ça fait 3 mois qu'ils sont ensemble avec sa copine et il dit depuis 3 mois elle se refuse à moi, donc ça veut dire qu'ils n'ont jamais eu de rapport sexuel. C'est pas bizarre de ne pas avoir couché ensemble au bout de 3 mois à 27 ans ?
Il n'y a pas d'obligation, je crois que les relations ont besoin aussi parfois de temps pour se construire. Évidemment que dans notre monde moderne on ne se donne absolument pas le droit à l'attendre, on n'attend plus nulle part et on ne supporte pas d'attendre, on veut dans l'immédiateté y compris dans les livraisons de tout qui arrivent à domicile. Donc je crois qu'il y a cette idée que du coup, si on est ensemble, c'est qu'on a envie l'un de l'autre et donc on le fait. On peut aussi avoir envie de construire de la relation sans être complètement d'une vieille époque.
Jimmy ?
Mais il nous pose la question, donc c'est bien, on peut y répondre, mais il ne devrait pas simplement lui en parler. Est-ce qu'on ne doit pas le dire tout simplement pourquoi
Jimmy,
on ne le
fait
pas ?
Jimmy, c'est l'homme de la communication, il faut en parler.
Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Et puis peut-être que là, on ne sait pas, elle est peut-être vierge et qu'elle n'a jamais eu de rapport et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce frein.
Oui, ça peut être effectivement pour ça. Donc effectivement, elle n'a peut-être pas raconté ce qui est à l'origine de sa difficulté. Alors que ça peut être parce qu'elle est vierge ou ça peut être parce qu'elle a des histoires douloureuses passées avec l'idée qu'à chaque fois que le passage à l'acte se fait, c'est un investissement et avec une douleur plus grande. Quand elle est quittée et donc elle retarde pour créer quelque chose qui noue la relation mais à la fois de façon peut-être un peu maladroite en effet. C'est vraiment d'un couple à l'autre, il y a quand même des générations entières qui se sont construites sur la base du flirt long jusqu'au mariage et encore aujourd'hui pour ceux qui sont religieux pratiquants n'allant dans le mariage qu'après, la sexualité qu'après le mariage, donc ce qui veut dire un très long temps entre les fiançailles, les rencontres, les fiançailles et le mariage. Donc il n'y a pas quelque chose d'anormal si ce n'est que notre société va un peu plus vite aujourd'hui en effet.
Sinon pourquoi de toute façon la copine de Sébastien elle se refuserait, elle éviterait les rapports sexuels, il doit s'interroger finalement sur lui ou sur elle, Sébastien qui pose la question.
Je crois comme le disait Jimmy, je crois qu'il faut qu'il pose la question quelle est sa difficulté, mais après il peut aussi se poser la question lui-même, qu'est-ce qui fait qu'il faut que ça arrive maintenant et tout de suite, qu'est-ce qui fait que je ne peux pas rester avec quelqu'un qui me frustre, ou à l'inverse, qu'est-ce qui fait que ça fait 3 mois que je suis avec quelqu'un qui me frustre ? Et ça peut raconter une histoire personnelle tout à fait autre et que je n'utilise que quelqu'un qui ne peut pas pour pouvoir m'exprimer finalement.
Jimmy ?
Est-ce qu'on peut être incompatible sexuellement ? C'est-à-dire qu'on a une relation qui va très bien amoureuse et finalement, une fois le passage à l'acte, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut qu'on se pose la question de est-ce qu'on est compatible ?
Je crois que les relations, en effet, parlent de compatibilité. Est-ce que c'est une compatibilité au niveau corporel ? Non, tous les corps sont prêts et capables de s'emboîter. Mais effectivement, émotionnellement, les choses sont un peu plus complexes. Et des couples s'organisent et se marient d'ailleurs et vivent longuement ensemble tout en étant parfaitement incompatibles. C'est-à-dire que la pudeur de l'un a alimenté la pudeur de l'autre et l'inhibition de l'autre. Et à ce titre, sexuellement, ils sont incompatibles parce que leur deux peurs a été exponentielle. Pour autant, ils peuvent être socialement tout à fait dans une cohérence.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos précieux conseils. Comme toujours, voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain dans son rendez-vous. Votre émission Santé Bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h.